France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Environ 12 millions de personnes sont en situation de handicap dans notre pays. Et plus de 8 fois sur 10, le handicap survient au cours de la vie, après un accident de la route ou du travail, un accident vasculaire cérébral ou encore du fait de maladies comme la sclérose en plaques, le Parkinson ou la maladie de Charcot, entre autres. Malgré cette fréquence, le handicap fait peur et les valides en ont souvent une fausse vision marginalisante. Ce qui est réel, en revanche, c'est que les personnes en situation de handicap sont moins scolarisées, plus au chômage et en situation de précarité que la population générale. Elles subissent aussi plus souvent des violences sexistes et sexuelles. Résultat, elles sont 52% à s'estimer discriminées. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment on vit avec un handicap dans notre société, à l'école, dans le monde du travail, dans les relations sociales. Nous verrons si des progrès ont été réellement faits ces dernières années, notamment depuis que la France a signé la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, s'engageant à adapter l'environnement pour permettre à tous l'émancipation et la vie autonome. C'était il y a presque 20 ans. Pour répondre à ces questions, une militante, elle-même atteinte de myopathie, qui se bat pour que les porteurs de handicap revendiquent leur identité, pour que cette différence puisse être une partie légitime d'eux-mêmes et pas seulement quelque chose à corriger. Charlotte Puiseux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, psychologue, co-auteur avec Kiara Khan de « Plutôt vivre, comprendre le validisme et valoriser une culture crip ». Ça vient de sortir aux éditions Cavalier Bleu. Également auteur de « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». C'est aux éditions La Découverte. Vous êtes membre également des Dévalideuses, un collectif anti-féministe. Vous êtes vous-même porteuse d'un handicap. On va venir à votre histoire et vos combats. Juste un chiffre avant, 85% des handicaps sont dits invisibles. Donc on a un peu de mal parfois à comprendre ce que l'on entend par handicap. On précise qu'il y a 5 catégories de handicap.
Alors oui, en effet, il y a plusieurs catégories de handicap. Et on trouve notamment une définition dans la fameuse loi de 2005, donc qui est la loi pilier de la politique française du handicap, où sont énumérées justement ces catégories. Mmh. Donc cette définition, elle dit que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement, donc on parle bien d'environnement, par une personne en raison d'une altération donc substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique,
d'accord,
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà comment est défini juridiquement le handicap dans la loi française.
Alors, vous connaissez bien ce monde du handicap, puisque vous êtes atteinte d'une myopathie. Enfant, vous avez été très suivie par les médecins qui ont tout fait, il faut le dire, pour vous changer, vous mettre le plus possible dans la norme, notamment pour vous faire tenir debout. Vous ne vouliez pas de ça, pourtant c'était pour votre bien, non?
Oui, alors du coup, on arrive à une question qui est centrale, à savoir en fait la limitation entre soins et normalisation. Donc forcément, quand on est enfant, parce que comme vous dites, moi j'ai été diagnostiquée très très jeune, j'ai subi ces soins, donc du coup qui étaient présentés comme des soins en effet pour aller mieux, pour être moins tordu, avoir moins de rétraction musculaire, etc. Donc forcément, quand on est enfant en plus, on n'a pas le recul sur tout ça. Donc c'est vrai qu'on croit les médecins, les soignants et soignantes. Mais c'est vrai qu'avec le recul, et aujourd'hui, je me rends compte de la distinction qui est vraiment nécessaire à faire dans le monde médical entre soins et normalisation. Parce qu'évidemment, il faut, les personnes handicapées doivent avoir accès aux soins et au monde médical. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que cet accès se fasse dans la bienveillance et l'écoute, ce qui est très difficile déjà des fois, et que les soignants, soignantes aient bien conscience justement de ce qui vient amener les personnes à les consulter, et ce qui n'est pas toujours un désir d'être plus valide. Voilà, il peut y avoir une souffrance, en effet, qui vient amener à consulter, mais les médecins peuvent avoir tendance justement à vouloir nous redresser, nous renormaliser, nous rendre plus valides, ce qui n'est pas forcément ce qu'on demande et ce qui va être bien pour nous, justement. Donc, il y a une dissociation à faire vraiment entre soins.
Vous voulez dire que finalement vous acceptiez d'être et vous préfériez être en fauteuil roulant?
En fait, c'est pour moi, le fauteuil roulant, c'était la liberté, en fait. On stigmatise beaucoup cet objet que le fauteuil, parce que, justement, on l'associe au handicap, à quelque chose de négatif. Mais en fait, pour beaucoup de personnes handicapées, c'est le fauteuil roulant leur redonne de la liberté. Elle leur permet de refaire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire sans, en fait. Donc, c'est clairement pas le fauteuil roulant le problème.
Comment s'est passée votre scolarité ? Est-ce que vous avez senti une marginalisation ? Est-ce que vous avez senti d'être vue comme différente par à la fois le système scolaire, mais également par vos camarades de classe ?
Bah oui, alors, comme vous l'avez dit, moi, j'ai été diagnostiquée très tôt. Donc, j'ai vraiment grandi en étant socialisée comme une personne handicapée. J'ai tout de suite été identifiée comme telle. En plus, j'ai un handicap très visible. Voilà, je suis en fauteuil roulant. Donc, on ne peut clairement pas passer à côté du fait que je suis handicapée. Et donc, très tôt à l'école, évidemment, j'ai subi les discriminations, les préjugés. Mais c'est un processus qui est difficile parce que quand on est enfant, plusieurs personnes handicapées vous raconteront ça quand elles vivent le handicap très tôt. C'est que nous, en fait, on ne se considère pas forcément tout de suite comme handicapés. Quand on est enfant, on est juste nous, en fait, avec nos propres capacités, nos propres façons de faire. Et c'est justement au contact des autres, et notamment des autres adultes aussi, qui, eux, ont déjà assimilé tout un tas de préjugés autour du handicap, des préjugés négatifs, du coup, qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas... qu'on n'est pas comme les autres, comme on dit, qu'on a quelque chose qui ne va pas. Et on va beaucoup culpabiliser parce que voilà, la faute va nous incomber. On va dire que c'est même nous-mêmes. On va intérioriser cette idée que c'est notre corps, que c'est notre psyché ou notre intellect qui ne va pas bien et que du coup, on n'a pas forcément notre place parmi les valides, ce qui est totalement faux, évidemment. Mais c'est une des grosses conséquences du système validiste. On va définir
bien
par
sûr. Bien sûr. Un autre fait important de votre vie, c'est que vous êtes maman d'un garçon qui a 9 ans aujourd'hui, c'est ça ? Lors de votre grossesse, vous avez été soutenue dans ce projet, vous avez été accompagnée avec bienveillance, je ne parle pas de votre conjoint bien sûr, mais du corps médical et de la société, comment ça s'est passé ?
Alors, non, pas forcément, parce que la question de la parentalité, elle est aussi extrêmement imprégnée des préjugés dont on parlait, des préjugés négatifs autour du handicap, et je pense encore plus quand on est une femme ou une personne identifiée comme telle, handicapée, parce que le sexisme de notre société fait encore aussi que c'est beaucoup les femmes qui sont vues comme ensuite devant s'occuper des enfants, etc. Et quand on est handicapé, on nous retire totalement cette capacité. On nous estime incapables de s'occuper d'un enfant, incapables de veiller sur lui, de changer ses couches, etc. etc. Et j'ai envie de dire, tant bien même que c'est vrai dans le sens où moi je n'ai jamais changé les couches de mon enfant, mais en fait pour moi ça ne fait pas de moi une mauvaise mère.
Oui, vous ne l'aimez pas moins parce que vous ne changez pas les couches.
Oui, et puis surtout j'adapte mes capacités, je trouve d'autres solutions, et en fait pour moi ce qu'apportent aussi les réflexions autour du handicap et de la parentalité permettent de libérer beaucoup de choses sur les questions parentales justement, et notamment la charge mentale qui peut être encore une fois liée aux femmes, y compris aux femmes valides, sur ces questions-là, et de repenser comment on peut justement proposer d'autres façons d'être parente, de s'occuper de son enfant, tout en étant une très bonne mère.
Oh, bien sûr. On va bien sûr parler validisme, anti-validisme et CRIP, mais juste pour qu'on comprenne bien, je le disais, 52% des personnes en situation de handicap en France se disent discriminées. On le comprend quand on fait le point. Il y a une étude de février 2024 qui montre que quand même le jugement des non-handicapés est lourd, avec des préjugés qui restent très élevés, et particulièrement en France par rapport à nos voisins européens.
Alors oui, c'est vrai que on est assez en retard au niveau européen sur les questions justement de politique anti-validiste et du coup de regard porté sur les personnes handicapées. On le voit même ne serait-ce aussi, encore une fois, dans cette fameuse loi qu'on a commencé à évoquer, qui est la loi de 2005, qui en fait, elle-même, quand elle a été actée, portait en elle déjà beaucoup de retard quand on la compare à la même époque à ce qui se faisait au niveau international. Donc en fait, on voit que la France est en retard, a du mal à intégrer c'est les politiques internationales. Voilà, on parle de désinstitutionnalisation, on va revenir dessus, je pense. Mais voilà, cette question-là, par exemple, elle est centrale au niveau international depuis plus de 20 ans. Et pourtant, en France, on n'arrive encore aujourd'hui pas à en parler. C'est très compliqué. Donc, il y a en effet beaucoup de retard en France. Pourquoi ? C'est toujours difficile à expliquer. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a des dans cette étude donc qui avait été faite en février 2024 en France, hein, on disait que pour 76% des Français, une personne handicapée était une charge lourde pour la famille et qu'un Français sur cinq pensait que les personnes handicapées n'étaient pas sexy. C'est vrai qu'on a quand même du boulot. On a du boulot aussi pour l'accessibilité. Il y avait la loi donc de 2005 qui rendait obligatoire l'accessibilité des lieux recevant du public. On a rétropédalé. Pour les transports, on en est encore loin. Et pourtant, c'est un facteur absolument essentiel pour la vie sociale et professionnelle. Écoutez Cécile, qui témoigne sur France Inter dans Le Téléphone Sonne, et je vous fais réagir juste après.
Il y a l'aspect sociabilité dans la vie de tous les jours. Et j'entendais le terme charge mentale. En fait, c'est vraiment ça, parce qu'il faut pouvoir anticiper pour la moindre chose qu'on ait à faire, se rendre à la poste, voir des amis, peu importe. Il faut qu'on se dise, est-ce que je suis en capacité d'y aller quand on peut marcher? Ça règle certains problèmes. Moi, j'ai une capacité de marcher, mais qui n'est pas infinie. Et puis, c'est aussi de se dire, est-ce que il y a des escaliers? Est-ce que s'il y a des escaliers, il y a des rampes d'accès? S'il n'y a pas de rampe d'accès, il y a au moins des ascenseurs. Et en fait, c'est parfois quelque chose qui nous sort des moments de convivialité qu'on peut avoir ou de la vie de tous les jours et où on peut être facilement de mauvaise humeur. En fait, c'est des petites choses qui s'additionnent, dont les gens n'ont pas nécessairement conscience et qui, mis bout à bout, sont assez contraignants.
Alors c'est un témoignage qui est très intéressant parce que ça explique quand même pas mal de préjugés. On a tendance à penser effectivement que voilà, les personnes en situation de handicap sont limitées parce qu'elles sont handicapées, ce qui est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que ce qui limite votre mobilité, c'est l'absence d'aménagement pour rendre justement les espaces publics accessibles. Et c'est une autre façon de voir les choses.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un des gros apports du coup des politiques internationales depuis des décennies déjà d'avoir mis en avant cette idée que le handicap était à l'interaction entre un individu, son corps, son esprit, son psyché et son environnement. Et pas que l'individu, le handicap n'est pas que le fruit d'une défaillance corporelle, psychique. Le handicap, il est vraiment dû aussi à un environnement inadapté. Et c'est là qu'on voit cette fameuse expression de personne en situation de handicap apparaître, parce qu'on met l'accent sur le fait que l'environnement n'est pas pensé par et pour les personnes handicapées. Et là, on touche aussi à un autre point important, c'est qu'on arrive à l'idée que les personnes handicapées ne sont pas représentées dans les prises de décision, dans les sphères politiques notamment, où ce sont quasiment que des personnes valides.
Ça avance un tout petit peu, non ?
Ça avance un tout petit peu. On a en effet un député qui est en fauteuil roulant, M. Sébastien Pelletavi. Mais ça avance très peu quand même. Enfin, nous, on estime que ça avance jamais assez vite. Et surtout que c'est une question cruciale, parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui vont faire les lois, qui vont prendre les décisions politiques. Donc s'il n'y a pas de personnes handicapées pour porter les besoins liés donc à nos situations, on n'avancera pas dans la construction d'un environnement adapté pour tous et toutes.
Autre situation, c'est toute la situation scolaire et professionnelle. On sait que le taux de décrochage scolaire prématuré est deux fois plus élevé chez les personnes handicapées que chez les personnes non handicapées, que seuls 29% obtiennent un diplôme d'enseignement supérieur contre 44% des personnes non handicapées. Dans le monde du travail, c'est pas mieux. Le taux de chômage de la population active reconnue handicapée est de 12% contre 7% pour l'ensemble de la population. Et vous dites que le capitalisme veut rendre les corps plus rentables, plus flexibles. Vous voudriez en fait qu'on sorte de l'idée que l'on est valable que parce que l'on produit.
Alors oui, donc là, ce que vous avez évoqué, c'est un large panel de tout ce que peut faire le système validiste.
Je pense qu'il est temps que vous définissiez, parce qu'effectivement, j'allais y venir, mais comme on en parle depuis le début, vous pouvez nous définir ce qu'est le validisme.
Et ben, en un mot, c'est l'idée que donc c'est le système d'oppression que vivent les personnes handicapées. Et je pense que l'idée centrale, si on devait le définir en une phrase, ça serait de dire que la vie des personnes handicapées a moins de valeur que celle des personnes valides. Mmh. Donc en fait, toute notre société est organisée sur cette idée-là. Alors, de façon plus ou moins violente, hein. On n'est pas toujours dans l'extrême, parce que bien sûr, il y a des situations extrêmes qui existent avec ce qu'on appelle des handicides, des personnes qui vont être tuées uniquement parce qu'elles sont en situation de handicap. Donc voilà, ça, c'est vraiment des situations extrêmement violentes. Mais le validisme, il est aussi dans tout un tas de gestes de la vie quotidienne, de comportements de la vie quotidienne. On parle même des fois de validisme bienveillant, quand par exemple une personne valide va partir d'une bonne intention pour aider une personne handicapée, mais en fait sans lui demander son avis, et que du coup ça va être mal reçu par la personne handicapée qui va subir ça en fait comme une agression. Donc voilà, le validisme, c'est un large spectre, mais c'est vraiment l'idée que c'est la vie des personnes handicapées a moins de valeur, et toute la société va être organisée là-dessus, et du coup ça va légitimer ce que vous avez dit juste avant, à savoir que un taux de chômage très élevé, peu de relations sociales, précarité, scolarisation difficile, enfin, tout va être légitimé par cette idée-là, que c'est normal parce que la personne est en situation de handicap et que du coup, sa vie a moins de valeur que celle d'une personne valide.
Mais donc ça veut dire effectivement qu'il faut repenser notre société, notre conception, par exemple aussi effectivement du travail, j'y reviens, pour sortir de l'idée qu'on est valable que parce que l'on produit. Il faut sortir de cette idée-là.
Tout à fait. Mais après, le capitalisme est très lié à la notion de validisme. Hein. C'est vraiment quelque chose qui renforce et qui nourrit le validisme, comme il nourrit d'autres systèmes d'oppression aussi, hein, avec cette idée de pressuriser les corps, les esprits, les psychés, d'aller vraiment jusqu'à un point de rupture, hein, parce qu'en fait, on parle aussi, par exemple, tout ce qui est accident du travail, burn-out, même suicide au travail. Tout ça sont des questions liées au capitalisme et au validisme. Et puis forcément, pour les personnes qui sont déjà en situation de handicap, elles vont se retrouver exclues du coup du champ du travail notamment, où la rentabilité est quand même une valeur prépondérante. Et du coup, l'ensemble de leur vie va être malmenée parce que justement, elles vont être jugées improductives, des fardeaux, des charges pour la société. Donc vraiment, cette notion de productivité liée au capitalisme est très, très délétère, évidemment, pour les personnes handicapées en priorité, mais je pense pour l'ensemble de la société aussi.
Alors, pour vous opposer à ce validisme, vous défendez une identité, une sorte d'alternative au validisme qui consiste à mettre à l'honneur les vulnérabilités, l'interdépendance, la fragilité. C'est ce qu'on appelle le mouvement CRIP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Alors, le mouvement CRIP, c'est un mouvement de personnes handicapées qui s'est créé à peu près autour des années 2000, notamment dans la sphère anglo-saxonne plutôt, et qui est encore très très peu connu en France. On essaie de porter ces idées, mais c'est encore assez peu connu. Et c'est vraiment né aussi de tous les apports, évidemment, du mouvement anti-validiste pour les droits civiques des personnes handicapées, qui, lui, dans le monde anglo-saxon, remontait déjà aux années 60-70, donc avec ce qu'on a dit, avec cette idée de mettre l'environnement inadapté en lumière dans les discriminations que vivent les personnes handicapées. Donc, toutes ces idées-là sont reprises, bien sûr. Mais le CRIP, il se nourrit aussi des nouveaux mouvements sociaux des années 80-90, et notamment de ce qu'on appelle le queer. Donc le queer, c'est un mouvement porté par des personnes lesbiennes,
mouvement LGBT,
gays, de ce mouvement-là, avec cette idée vraiment très forte, en fait, de ce qu'on appelle retourner le stigmate. Parce qu'il faut savoir que queer, à la base, c'est un mot insultant. Qui était du coup utilisé pour désigner du coup les personnes LGBTQIA+. Et donc en fait, non seulement les personnes se réapproprient l'insulte, c'est-à-dire au lieu de dire non, on n'est pas ça, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça, elles vont dire si, c'est vrai, on est ça, et en plus on est fiers de l'être. Et la notion de fierté, elle apparaît à ce moment-là aussi.
Mais il y a bien la marge de fierté, effectivement, pour les LGBT.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, le mouvement CRIP, il va se nourrir vraiment de tous ces apports-là, et il va procéder au même retournement du stigmate, autour de la question du handicap, voilà, qui est vue comme une identité insultante. Être handicapé, c'est pas bien, c'est mal. Eh bien non, en fait, les activistes du mouvement CRIP vont me dire oui, on est handicapé et on est même fiers d'être qui on est et on veut plus se cacher, on veut se montrer tel qu'on est, on veut exister. Voilà, c'est ça le mouvement CRIP. Et qui est beaucoup porté par... juste des personnes sexisées, racisées, justement aussi parce que au sein du mouvement antivalidiste, il y avait aussi des discriminations et que voilà, les personnes racisées, sexisées, avaient aussi du mal à faire entendre leur propre vécu spécifique. Et donc, le mouvement CRIP, il porte aussi tout ça.
Il y a un autre de vos combats, enfin, ça reste, tout ça reste un seul combat, ce sont les institutions. Vous, pas que vous, souhaitez au maximum les fermer, que tout soit fait pour permettre de vivre au domicile avec des moyens, notamment parce que, et l'ONU le dit souvent, ce sont des lieux de violence où les droits humains ne sont pas respectés. C'est de plus en plus une réalité.
Alors oui, nous on s'appuie du coup sur ces revendications de l'ONU qui expliquent, comme vous dites, que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui en France sont des lieux de privation de droits humains. Donc en fait, l'ONU est venue plusieurs fois constater ce qui se passait en France, a vraiment alerté la France sur l'urgence d'appliquer une politique de désinstitutionnalisation, ce que la France ne fait pas du tout, et ce qui est très grave, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, au niveau international, il n'y a même plus de débat sur est-ce qu'il faut ou pas fermer les institutions. Au niveau international, pardon, à l'ONU, c'est déjà un débat qui a été classé. Là, maintenant, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait.
C'est vrai que pour beaucoup de parents, malgré tout, ça reste une solution dont ils auraient du mal à si elle n'existait plus.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. La France, en continuant justement à prôner l'institutionnalisation, met énormément de moyens à faire perpétuer ce système. Et forcément, c'est des moyens qui sont en moins pour d'autres systèmes qu'on pourrait mettre en place. Il y a quand même énormément de personnes handicapées qui, si elles avaient, comme vous dites, les moyens humains, notamment techniques, pourraient vivre chez elles, au milieu de la cité, quoi, enfin dans la société. Donc c'est quand même extrêmement urgent de faire sortir ces personnes des institutions, et puis surtout de comprendre justement que ces droits-là sont souvent bafoués. C'est-à-dire les droits à vivre chez soi avec des aides techniques humaines, adéquates. Notamment décidé dans ce qu'on appelle les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, où les droits des personnes handicapées sont très souvent bafoués de façon...
C'est inimaginable.
Oui, il y a eu une enquête au Dévalideuse, on a fait une grosse enquête sur cette question, enfin aidée de Mediapart notamment, avec des articles qui sont sortis, une émission de télé aussi sur ce sujet. C'est un scandale inimaginable. Enfin, il y a une privation de droits au sein des MDPH, pardon, qui est assez impressionnante. Et c'est le revers, en fait, de l'institutionnalisation. Parce que si on nous prive de vivre à domicile, en effet, on n'aura pas d'autre choix que d'aller en institution.
On va continuer cet entretien, bien sûr, juste après la chronique Avec Science. Aujourd'hui, Alexandra Delbault nous parle d'une nouvelle étude qui révèle une signature biologique particulière chez les patients atteints de dépression résistante.
Carnet de santé.
La dépression résistante a-t-elle une signature biologique? C'est une forme qui concerne 15 à 30% des dépressions. Il n'existe pas de classification claire et internationale pour le diagnostic. On qualifie généralement une dépression résistante au traitement quand au moins deux médicaments n'ont pas réussi à apporter les bénéfices escomptés. En plus de la psychothérapie, plusieurs stratégies existent. Combiner des antidépresseurs de classes différentes, ajouter des adjuvants pour amplifier leurs effets et, dans certains cas, recourir à la stimulation magnétique transcrânienne ou à l'électroconvulsiothérapie. Mais aucune approche ne fonctionne de manière optimale et pour tout le monde. Alors, pour améliorer la prise en charge, il faut comprendre d'où vient cette résistance au traitement. Marie-Claude Potier est directrice de recherche au CNRS et responsable d'équipe à l'Institut du cerveau.
La résistance au traitement, elle pourrait être due à plusieurs facteurs.
Un premier qui nous est venu à l'idée, et pas seulement à nous, c'est que ces personnes pourraient avoir un métabolisme des médicaments qui soit différent et donc résistent au traitement. Ça, c'était une première chose. La deuxième, qui avait déjà été étudiée, mais pas de manière si extensive, disons, c'est que ces personnes ont des modifications biologiques qui sont différentes. Il était déjà connu que certains facteurs inflammatoires en périphérie puissent jouer un rôle. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des études cliniques actuellement qui visent à appliquer des traitements anti-inflammatoires aux personnes résistantes au traitement.
Bien évidemment, la dépression est une pathologie complexe qui fait appel à plein de facteurs dits environnementaux, à des trajectoires de vie particulières et souvent des traumatismes dans l'enfance. Tout ne se résume pas au fonctionnement propre de l'organisme. Mais est-ce que cette forme de dépression pourrait avoir une explication biologique? Est-ce que les patients et patientes résistants au traitement ont un profil biologique particulier? C'est ce qu'a voulu déterminer cette nouvelle étude parue dans le journal Brain, Behavior and Immunity. Les scientifiques ont analysé une simple prise de sang de 300 patients, environ 150 présentant une dépression dite classique et 150 autres souffrant de cette forme résistante. L'idée est de comparer l'expression des gènes dans les cellules du sang. Est-ce que ces cellules activent ou désactivent leur génome de la même manière selon que la dépression répond ou non au traitement conventionnel? Résultat, près de 5000 gènes s'expriment différemment. 5000 gènes n'ont pas la même activité chez les personnes résistantes au traitement.
Finalement, ce qui a été assez troublant et assez clair, c'est que chez les personnes résistantes au traitement, on a de manière prédominante trouvé qu'il y avait beaucoup de transcrits de gènes qui ne correspondent pas à des protéines. Donc en fait, on a une transcription du génome qui n'aboutit pas à la synthèse de protéines. Donc c'est un peu compliqué, mais la complexité de la régulation de l'expression des gènes est telle qu'elle est. Donc là, on a vraiment une signature de gènes non codants, mais qui régule d'autres gènes codants. Et parmi les gènes codants qu'on a vus réguler, très clairement, on a une association avec le système immunitaire, l'inflammation et des régulations épigénétiques. Et donc, quand on a vu ces gènes impliqués dans le système immunitaire, on a vu qu'un certain nombre de cellules étaient différents chez les patients résistants au traitement par rapport aux autres. Et notamment, on a vu un plus faible niveau de certaines cellules comme les neutrophiles, les cellules natural killer et certaines proportions de lymphocytes T.
Finalement, cela veut dire que les personnes résistantes au traitement ont un fonctionnement biologique particulier. Leurs gènes sont régulés autrement et leur système immunitaire lui-même porte une signature distincte. Et cela rejoint les précédentes observations sur l'inflammation qui est une étape essentielle de l'immunité. C'est la première étude de la cohorte prompte dont le but final est d'identifier, avec de l'apprentissage automatique, donc de l'intelligence artificielle, les personnes susceptibles de présenter une dépression résistante. Et c'est un pas de plus vers la psychiatrie de précision, avec la possibilité de détecter beaucoup plus tôt, grâce à des marqueurs biologiques, le risque que la dépression soit résistante, sans attendre de devoir tester toutes les thérapeutiques disponibles. Mais il y a certaines limites à cette étude. Les échantillons sanguins, c'est une chose, mais la dépression se passe dans le cerveau. 150 patients ne représentent pas nécessairement tous les patients atteints de cette forme de dépression. La prochaine étape, c'est de confirmer ces résultats. Ils n'ont été obtenus que dans un centre italien. L'enjeu après présent et de mener la même expérience en Allemagne, en Pologne et en Sardaigne pour déterminer si on retrouve là aussi ce profil biologique et immunitaire particulier.
Charlotte Puiseux, je voudrais qu'on termine par un chiffre terrifiant. 34% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences sexistes et sexuelles contre 19% pour celles sans handicap. Une double peine terrifiante.
Oui, en effet, c'est vrai que en ce mois de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce chiffre fait vraiment très peur et il s'explique par plusieurs choses. Hein. Évidemment, on l'a évoqué, la question de l'institutionnalisation est un facteur extrêmement propice aux violences, mais pas que, parce que ce n'est pas que dans les institutions. Il y a un éloignement en fait des personnes handicapées du champ de la sexualité, un manque d'apprentissage en fait à la sexualité, à la notion de consentement, d'éducation, voilà, à la sexualité, parce qu'on estime que ces personnes ne vont pas avoir besoin de ce genre d'apprentissage. Oui. Donc en fait, les personnes handicapées à ne pas savoir ce qu'elles peuvent accepter ou pas, ne pas avoir conscience de la notion de consentement.
Merci infiniment d'être venue. Je vous conseille vraiment votre dernier livre passionnant écrit avec Kiara Khan, Plutôt vivre, comprendre le validisme et valoriser une culture creep. C'est aux éditions Cavalier Bleu. Merci beaucoup Charlotte. Et merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swat Boukorsa qui l'a réalisée et mise en ondes.